Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ils dorment au travail parce qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. On en est au 12e jour de grève dans les transports, dans plusieurs hôpitaux, comme à Foch, à Suresne, dans les Hauts-de-Seine, ou ici, à Cochin, à Paris. Des personnels passent leur nuit sur des lits d'appoint. C'est le cas de cet aide-soignant que vous êtes allé voir, Vincent Serrano, 4 jours qu'il n'est pas rentré chez lui.
Il faut pour ça aller au fond du service diabétologie, chambre 309. Un mot est écrit au feutre sur la porte, ne pas déranger. C'est la chambre habituelle pour un patient, sauf que c'est vous, Pierre, aide-soignant, qui dormez là depuis 3 jours.
Voilà, on dort et en fait on se retrouve au même endroit.
Un lit d'hospitalisation avec les fils qui pendent, il manque plus que l'objet avec la perfusion.
Exactement, on a vidé un peu les chambres pour que ça soit quand même plus agréable et que ça fasse moins hôpital en fait. Mais rien que le matelas c'est du plastique. Quand on a de la chance, on a des stores, mais c'est un service qui vide tout le temps et c'est vrai qu'il y a du bruit tout le temps. C'est une usine hein, qui tourne et on essaie de dormir.
S'il n'y a pas cette chambre pour vous, ça fait combien de transport?
En temps normal, 1h30. Depuis les grèves, 4h aller, 4h retour, donc 8h. Mais c'est de la fatigue parce qu'on ne dort pas bien. C'est de la fatigue parce que suffit qu'on entende un choc et ça peut être un patient qui tombe. Et on a quand même le réflexe qui est toujours là, en fait. Le plus compliqué, c'est ça. Il n'y a pas de véritable coupure, en fait. Et ça use un peu plus vite.
On va tenir encore longtemps comme ça?
Je ne pense pas. C'est pas possible. Moi, j'ai de la chance. J'ai aucune attache, aucune famille. Il y a des infirmières qui sont mères de famille. Elles peuvent pas laisser leur gamin tout seul. Faire un choix entre soit perdre énormément de temps et soit dormir sur place.
S'il reste de la place.
S'il reste de la place.
En attendant, Pierre va entamer aujourd'hui sa 5e journée de travail consécutive sans quitter l'hôpital.
Reportage signé Vincent Serrano à l'hôpital Cochin à Paris. La bataille de Noël est lancée, les vacances commencent vendredi soir et le leader de la CGT, Philippe Martinez, a déjà prévenu. Ce n'est que jeudi ou vendredi que les grévistes décideront de la suite du mouvement et quand on sait qu'il faut plusieurs jours pour remettre des trains sur les rails, on peut déjà dire que les départs ce week-end dans les gares s'annoncent compliqués. Bonjour Mourad Jabari.
Bonjour.
Vous êtes à la gare du Nord, 12e jour de grève, on le disait. Ce qui est dur ce matin, c'est de se dire que c'est reparti pour une semaine.
Ouais. Oui, effectivement, dans cette gare presque fantôme, quasi déserte, on est loin du fourmillement habituel et face à cette semaine galère qui s'annonce, la résignation des jours passés laisse place ce matin à la colère.
C'est juste insupportable. On galère, on perd du salaire, on perd de tout, donc non, c'est pas normal. Je fais des journées de 12 heures grâce à la grève, au lieu d'en faire une journée de 8. Voilà. Et mes collègues sont en télétravail quand ils peuvent l'être, sinon ils sont obligés de poser des RTT ou des jours de congé, voire du sans-solde. Ouais, non, je suis saoulée, ouais. J'en ai marre.
Des voyageurs qui ont pour certains l'allure de randonneurs, hein, équipés de chaussures de marche et de gros sacs à dos pour aller au travail. Christian déprime en pensant à cette semaine compliquée et les fêtes de fin d'année en sursis. Il doit se rendre en famille, en train, en Alsace.
Une semaine de galère, c'est pénible parce que vraiment, on n'arrive à rien faire. J'ai programmé les fêtes de Noël comme tout le monde, mais sauf qu'on va galérer. Et il y a plein de trains complets ou supprimés, mais là, j'ai réussi à avoir un train.
Et vous pensez que vous arriverez à le prendre?
Ben, j'espère. Normalement, il est confirmé. D'ici là, on verra bien. Sinon, je serai obligé de prendre la voiture. Toute la famille attend.
Christian va assurer quand même ses arrières et réserver aussi des places pour du covoiturage.
Merci Mourad Jabari en direct de la gare du Nord à Paris sur les rails. C'est vrai que le trafic est toujours très perturbé. On rappelle les chiffres du jour. 1 TGV sur 3, 1 Transilien sur 4 et 4 TER sur 10. Et à Paris, 8 lignes du métro restent fermées sur les routes d'Île-de-France. Pierre Collat, on le redit une nouvelle fois ce matin, c'est encore la pagaille.
Ah oui, c'est compliqué. Hein. Pendant ce temps, en Île-de-France, on dépasse les 572 km de bouchons. C'est compliqué aussi en province. À l'entrée de Grenoble, sur la 480, vous patientez dans 8 km de bouchons en arrivant en côté nord, 8 km aussi en arrivant par le sud et 6 km sur la 41 depuis Chambéry. À Toulouse, vous êtes très nombreux côté sud, comptez 45 minutes entre Muret et le Palais. C'est chargé aussi sur côté nord sur le périphérique. La manifestation de routiers par contre sur la 62 vient de se terminer.
Merci beaucoup Pierre Collat. Effectivement, les transporteurs routiers sont entrés dans la danse. Il y a un ralentissement notamment sur l'autoroute A62 entre Bordeaux et Toulouse. Information de Patrick Tégéraud sur place. Et dans tout cela, le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye peut-il rester encore longtemps à son poste? On a appris qu'il n'avait pas eu 3 mais 13 mandats parallèlement à son poste de ministre. 2 étaient rémunérés, ce qui est interdit par la Constitution. La haute autorité à la transparence de la vie publique se réunit mercredi. Elle peut décider de saisir la justice.
RTL Matin 8h04.
Et pendant ce temps, eh bien, les blocages de raffinerie continuent.
La CGT Chimie veut maintenir la pression. 450 stations-service sur 11 000 sont ce matin en rupture partielle ou totale. Mais pas d'inquiétude, disait la semaine dernière sur RTL la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à Thomas Soto.
On a des stocks qui peuvent permettre
permettre d'assurer les besoins du pays pendant 90 jours, donc 3 mois.
Il n'y a pas de menace ni demain ni dans les jours qui viennent.
Non.
Alors, la ministre est-elle trop optimiste? N'y a-t-il vraiment rien à craindre? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Éric Vanier, bonjour.
Bonjour.
Avons-nous des stocks de carburant suffisants pour éviter une pénurie à la pompe?
Oui, la France a tiré les leçons de mai 68 et de la crise pétrolière de 73. Depuis ces événements, elle dispose de stocks stratégiques d'hydrocarbures qui correspondent à 3 mois de consommation, répartis dans une centaine de dépôts disséminés sur tout le territoire. Normalement, ces réserves stratégiques doivent servir en cas de situation exceptionnelle, guerre, catastrophe naturelle, choc pétrolier. Mais depuis plusieurs années, l'État a pris l'habitude de puiser dans ces stocks quand il y a des mouvements sociaux qui affectent les raffineries. C'est ce qui a été fait encore cette fois-ci pour garantir l'approvisionnement des stations-service.
Et pourtant, certaines pompes sont à sec.
Oui, mais ça, c'est un autre phénomène quasiment imparable. Ce n'est pas un problème de stock du pétrole. Il y en a, mais un effet panique et moutonnier par crainte de manquer d'essence. Les automobilistes anticipent et se précipitent à la pompe dès que la jauge de leur réservoir baisse. Les stations-service ne peuvent plus suivre en cas d'affluence, car les tournées des camions-citernes sont réglées comme du papier à musique. Difficile d'aller plus vite pour réapprovisionner. Et on finit par avoir une pénurie artificielle entretenue par les automobilistes eux-mêmes. C'est peut-être ce qui nous attend, sauf si chacun a la sagesse de ne pas changer ses habitudes pour faire le plein.
Message reçu, la question de 8h avec Éric Vanier.
En bref, à l'étranger, le très lourd bilan des manifestations en Iran contre la hausse du prix de l'essence. Manifestation réprimée par le régime. Amnesty International a revu ses chiffres à la hausse. Au moins 304 personnes ont été tuées en 4 jours. Aux États-Unis, c'est un axe de défense qu'on n'attendait pas vraiment de sa part. À moins d'un mois de son procès, Harvey Weinstein répond aux questions du New York Post. L'ancien producteur de cinéma accusé de viol se pose en défenseur de la gente féminine. Il affirme avoir été le pionnier de la promotion des femmes à Hollywood.
Dans un court instant, un revenant et des remous.
RTL Matin, 8h07.
RTL Matin.
RTL Matin, 8h07, la suite de votre journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
En politique, on n'est jamais mort, dit-on. Ben, ce n'est pas Alain Carignon qui dira le contraire.
Non, l'ancien maire RPR de Grenoble, condamné pour corruption dans les années 90, fait son retour cet après-midi au conseil municipal. Il sera présent, il rêve de retrouver son ancien fauteuil. Il est candidat et se présente contre le maire sortant, le vert, Éric Piolle. Entre l'ex et l'actuel maire, ça balance pas mal. Écoutez dans l'ordre. Donc Éric Piolle et Alain Carignon au micro RTL de Serge Puyot.
Je crois que c'est déplorable pour le débat public. Hein. Il y a Balkany à Levallois, nous avons Carignon ici. Je crois que le débat public mérite mieux que cela. Ne nous battons pas avec des cochons, nous finirons tous dans la boue et eux, ils aiment ça. Donc de fait, je ne vais pas me battre avec Carignon.
Qu'Alain Carignon soit comparé à un cochon, vous pensez qu'il va apprécier?
Tu savais, je m'en fous en fait.
Il y a une sorte de haine incompréhensible. Je pense que c'est la haine de la peur. Quand on a peur, on devient haineux et je pense que c'est ce cas. Je ne tombe pas là-dedans parce que les Grenoblois ont besoin de débattre du fond, des enjeux de la ville et il faut que Éric Piolle se réhabitue à la confrontation qui n'a pas eu lieu jusque-là.
Éric Piolle et Alain Carignon au micro de notre correspondant à Grenoble, Serge Puyot.
RTL Matin 8h09.
Le foot, l'Olympique Lyonnais a connu des jours meilleurs. Hein.
Depuis hier soir et sa défaite à domicile contre Rennes 1-0, le club a perdu 2 joueurs pour blessure. Memphis Depay et Jeff Reyna-Adélaïde. Il faudra se passer d'eux jusqu'à la fin de la saison. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. L'OL connaîtra en milieu de journée son adversaire en Ligue des Champions. Le tirage au sort des 8e a lieu à midi et le club pourrait tomber sur du costaud, Nicolas Georgerot.
Oui, c'est Lyon ayant terminé 2e de son groupe qui devrait hériter de l'adversaire le plus relevé. Il n'y a quasiment que des grands noms européens possibles. Le Barça de Messi et Griezmann, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus et le tenant du titre Liverpool. Seuls les Espagnols de Valence, que les Lillois avaient d'ailleurs réussi à tenir en échec au stade Pierre Mauroy au premier tour, apparaissent plus abordables pour l'OL. Inversement, pour le PSG, aucun tirage ne semble insurmontable, même si avec les Parisiens tout est à nuancer. Deux clubs principalement à éviter, Tottenham, finaliste de la dernière édition, repris en main il y a peu par José Mourinho, et l'Atlético de Madrid, un habitué de la compétition. Naples, Dortmund et Chelsea sont aussi des adversaires possibles, tout comme l'Atalanta Bergame, c'est la première apparition des Italiens à ce niveau. Le PSG, en finissant en tête de son groupe, aura l'avantage de recevoir au match retour.
Le PSG, merci Nicolas Georgerot, qui l'a largement remporté hier soir contre Saint-Etienne, 4-0. Mauvaise soirée en revanche pour Bordeaux, battu par Strasbourg 1-0. C'est sa seconde défaite consécutive.
Et on en vient à notre nouveau rendez-vous dans ce journal. Pendant 15 jours, nous allons vous emmener dans les coulisses de Noël.
Qui sont ces hommes et ces femmes qui œuvrent dans l'ombre pour illuminer nos fêtes? Ce matin, on a choisi de vous présenter les fabricants des célèbres santons de Provence. Ah. Les rois de la crèche, ce sont eux. Il y a des personnages bibliques, mais pas seulement. Direction la Maison Fouque et ses 15 salariés, c'est à Aix-en-Provence. Sophie Orange, vous avez rencontré la quatrième génération.
L'ambiance est très studieuse dans l'atelier. Des santons en cours de fabrication sont posés un peu partout. Emmanuel Fouque dirige la maison depuis 15 ans.
Là, je charge l'argile à l'intérieur du moule et ensuite je viens la compresser avec une petite presse à main qui me sert de pressoir.
Les plus petites pièces de 6 ou 9 cm sont faites en un seul moule, jusqu'à 15 moules pour les plus grandes ou les plus complexes, un pour chaque mouvement ou accessoire.
Tout ça, ça fait qu'on a à peu près 6000 moules sur le site pour une collection de 1800 modèles. Le santon reste un métier manuel. S'il n'y a pas d'humain derrière ces figurines-là, ça n'a plus aucun sens. Elle est prête, Alex, tu vas pouvoir la mettre en cuisson.
Alex, c'est le modeleur, le sculpteur, le santonnier, bonjour.
Bonjour, moi je suis Alexandre, donc le mouleur. Alors là, je réalise deux sujets à 20 cm. C'est un couple de vieux. Donc on a ici une vieille qui tricote et puis on a le vieux qui lit le journal.
Puis vient l'étape du séchage, crucial, il faut absolument éviter les fissures.
Je vais vous emmener voir ces caves de séchage. Là, on est dans la cave humide, hein, on est à 80-90% d'humidité. Pendant son séchage, la pièce va rétrécir de 8%. Là, c'est beaucoup plus sec, 40-50% d'humidité.
Ensuite, c'est la cuisson, 60 heures au four, le temps de monter jusqu'à 1000 degrés et de redescendre.
C'est dans la pièce à côté qu'ils vont prendre des couleurs?
Voilà, c'est là qu'ils prennent vraiment vie. Aujourd'hui, on a Diane en train de nous décorer des petites églises.
Donc c'est vous Diane, bonjour.
Bonjour, c'est la dernière étape. On peint à l'acrylique et à l'huile et à la peinture à l'huile, comme un tableau. Et chaque pièce est unique.
Chaque année, Emmanuel Fouque crée un nouveau personnage en lien avec la pastorale provençale. Ici, pas besoin de crayon ou d'ordinateur.
Je dessine pas, je prends des postures. On s'habille en condition pour vraiment être dans le réel. On fait des photos et on regarde comment les drapés se placent.
Vous vous déguisez en quelque sorte dans le personnage que vous avez envie de créer.
Absolument.
Et cette année, Emmanuel Fouque s'est déguisé en berger pour créer Théodore, le nouveau personnage de la crèche 2019.
C'est le plus beau des métiers, il est dans ce renouveau. Et le plus grand des bonheurs, c'est de voir les gens l'apprécier.
Et d'autres coulisses de Noël avec Sophie Orange demain dans ce même journal à la même heure.
Nous allons découvrir cela pendant 15 jours avec beaucoup de plaisir. C'était le journal.